Chapitre 6 Les nuits et les ennuis du baron Papillon. À l'heure où s'accomplissaient les événements que nous venons de décrire, le baron Papillon était en train de se demander tout simplement s'il n'allait pas demander le divorce. En effet, une scène terrible avait mis aux prises les deux époux, entre lesquels avait jusqu'alors régné cette harmonie de bon ton qui sert à masquer une indifférence aussi mutuelle qu'absolue. En rentrant chez lui vers 7 heures du soir, le collectionneur avait trouvé la baronne dans le grand vestibule, au milieu d'un amoncellement de malles et de bagages qui eût suffi à remplir un wagon de marchandises. Braillant, gesticulant, elle donnait des ordres tous plus contradictoires et plus ahurissants à ses domestiques, qui, littéralement affolés, ne savaient plus où donner de la tête. « Ah, ça que signifie ?» interrogea le baron, qui se demandait si sa femme n'avait pas achevé de perdre le peu de raison qui lui restait. Dressée sur ses ergots, telle une poule en colère, madame répliquait « Belle Fégor, me cause de telles frayeurs que j'ai décidé que nous partirions pour le Japon. »«
Pour le Japon ?»
répétait le baron ahuri. La baronne reprenait. « Il faut que je fasse mes préparatifs. Songe donc à un voyage de plusieurs mois. » Et désignant la véritable montagne qui se dressait autour d'elle, elle ajouta « Et encore, n'importe quel nécessaire. » « Ma chère amie, déclarait Papillon, effrayé de l'orage qui n'allait pas manquer de faire éclater, j'aurais 2 mots à vous dire. Ne me parle pas ici. Passons, si tu veux bien, dans mon cabinet de travail. Pourquoi ? Parce qu'il est inutile de mettre le personnel au courant. » Et tout en prenant sa femme par le bras, doucement, très doucement, il lui dit « Viens, mon chou, viens !» Mais il l'entraîna jusque dans son bureau. Littéralement empoisonné, le baron ne savait comment entamer un entretien qu'il pressentait mouvementé et dont il n'osait prévoir les conséquences. Déjà très nerveuse et tout en roulant des yeux en boule de loto, Eudoxie le pressait.
« Mais qu'est-ce que tu attends? Il n'y a plus de domestique. Nous voilà en tête à tête, ainsi que tu le désirais. Pourquoi ces hésitations, ces réticences? Aurais-tu quelques mauvaises nouvelles à m'annoncer ?»«
Pas du tout.
Alors ?»
Papillon tergiversait toujours. Se montant de plus en plus, Eudoxie sévèrement articulait.
« Hippolyte, tu me caches quelque chose !»
Et tout à coup, elle s'écria.
Ben, je devine tout. Tu as une maîtresse.
Moi?
Oui, toi. Une créature qui te retient à Paris.
Mais pas du tout. C'est ridicule de ta part d'avoir un pareil soupçon. Et appelant à lui le peu de courage qu'il avait à sa disposition, il fit d'un air grave et solennel. Eudoxie, il nous est impossible de partir demain au Japon.
Pourquoi ?
Parce que j'ai lu dans un journal qu'une épidémie de beriberi apportée à Yokohama par des Noirs venait d'y éclater et se propageait dans tout l'empire nippon avec une rapidité foudroyante.
Le beriberi ? S'exclamait Eudoxie. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est la maladie du sommeil. Il paraît qu'en moins de 8 jours, elle a fait plus de 500 000 victimes.
« C'est absurde !» s'indignait Eudoxie. « Il n'y a donc pas de médecins dans ce pays ?»«
Si, et même d'excellents, mais ils sont débordés. »«
Oh, bon, ben, filons aux Indes. »«
Aux Indes ?» répéta Papillon en feignant une subite épouvante. « Aux Indes ?
Mais qu'est-ce qu'il y a encore aux Indes ?»
Hippolyte, qui n'avait encore rien trouvé, fit pour gagner du temps. « Ben, il s'y passe des choses effroyables. »«
Quoi ?»«
Ben, des choses qu'on n'ose pas écrire dans les journaux et que je ne veux pas te répéter. »«
Ah, je veux tout savoir, tout. »« Eh bien, annonçait péniblement le collectionneur, aux Indes, c'est la révolution, on y massacre tous les Européens. Et en Amérique, ben, y a la grippe espagnole. Et en Australie, le choléra morbus. Et au Maroc? Au Maroc, mais tu n'y penses pas, ma chérie. Au Maroc, on y enlève chaque jour, jusque dans les hôtels, un grand nombre de Françaises qu'on emmène dans le Rif pour servir d'esclaves aux favorites des chefs dissidents. Et en Algérie, alors? En Algérie, oh, y a la fièvre aphteuse. La fièvre aphteuse, regimbait la baronne. Je croyais qu'il y avait que les animaux à attraper ça. Papillon, qui faisait preuve d'une imagination qui ne se fût jamais soupçonnée, affirmait avec un sérieux imperturbable, « C'est une erreur. Dans les pays chauds, elle se communique également aux gens. Elle prend alors le nom de fièvre de Malte. » Alors, sur cette théodoxie, il n'y a plus moyen d'aller nulle part. Puis tout à coup, elle fut saisie d'une idée subite. Et en Espagne? En Espagne? Malheureuse! S'écriait Papillon. En Espagne? Mais tu ignores donc que le gouvernement dictatorial vient de rétablir l'Inquisition? Mais après? Comme nous appartenons à la religion protestante, nous serions immédiatement arrêtés, emprisonnés, peut-être brûlés vifs. En ce cas, il n'y a qu'à nous faire catholiques. Cela nous entraînerait à des formalités qui demanderaient un temps considérable. Mais si nous filions en Italie, s'entêtait la baronne, nettement décidée à passer en revue tous les pays du monde. En Italie, répéta le collectionneur, en levant les bras au ciel. « Mais malheureuse, tu n'y songes pas. Pourquoi? C'est un très beau pays. Et Mussolini? Mussolini, mais tous ceux qui l'ont approché disent que c'est un charmeur. Pour ses amis, mais pas pour ceux qui ne partagent pas ses idées. Comment, t'es pas fasciste? Mais je ne suis rien du tout. » Ça ne me regarde pas ce qui se passe en Italie. Eh bien, seulement voilà, j'ai un de mes parents qui a écrit il y a quelque temps dans l'Impartial de Castelnaudary un article assez violent contre Mussolini Duce, article qui, étant donné l'influence de son auteur et l'importance de son journal, n'a pas manqué d'être mis sous les yeux du dictateur. Et si jamais il apprend que nous sommes les cousins de ce pauvre terre, oh, il nous faudra certainement interdire la frontière, nous en serons pour nos frais de voyage. Madame Papillon s'obstinait. Il nous reste encore l'Angleterre, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne. Mon chou, je t'en supplie, implorait Papillon, tenons-nous là pour aujourd'hui. Alors, tu veux plus partir? Bon, j'ai une migraine atroce. Le fait est que l'effort cérébral auquel avait dû se livrer l'infortuné Hippolyte pour répondre à sa femme lui avait donné un mal de tête que révélait sa face congestionnée, ses yeux clignotants et ses paupières violacées. Mais son égoïste et poltronne moitié était beaucoup trop hanté par la crainte du fantôme pour accorder la plus légère pitié à son mari. Et éclatant de fureur, elle dit « Une migraine, une migraine, prétexte pour n'en faire qu'à ta tête !»« Ma tête, oh, » s'écriait le baron, « je voudrais bien en ce moment ne pas l'avoir sur mes épaules. » « D'abord, piaillait Madame Papillon, tu ne peux pas avoir mal à la tête puisqu'il n'y a rien dedans. » « Mais je te jure, » se montait l'amateur de Bidulot, « je te jure que je souffre atrocement. C'est pas vrai. Laisse-moi au moins prendre un cachet d'aspirine. Me prends-en tout un flacon, » vociférait la baronne déchaînée. Et puisque tu veux pas partir, eh bien moi je m'en irai toute seule. C'est cela, mon clou hypocrite, sans chercher le moindrement à retenir son irascible femme, qui tout en continuant à proférer des sons rauques et inarticulés, sortit en coup de vent du cabinet de travail. Demeuré seul, l'amateur de bibelots se prit le front à deux mains. Puis il grommela, « Oh oui, que s'en aille, que me fiche la paix, que je la vois plus jamais, jamais. » Puis il sonna son valet de chambre et lui ordonna de lui apporter un flacon de comprimé et un verre d'eau. Le calmant produisit son effet. Un quart d'heure après, le baron était entièrement soulagé. Alors il se mit à arpenter son bureau tout en monologuant. Déjà, avant l'apparition de ce fantôme du Louvre, le Doxy ne me rendait pas l'existence très facile. Elle a toujours eu un si mauvais caractère. Cependant, bon, avec de la patience, c'était encore supportable. Mais depuis que ce maudit Belphégor a fait les siennes, cela devient intolérable. Ah, pourquoi Belphégor ne l'a-t-il pas emporté? Car j'en suis sûr, elle s'en ira pas sans moi. Que faire, mon Dieu, que faire? Jusqu'à l'heure du dîner, Papillon chercha vainement une solution. Et lorsqu'il se trouva à table, en face de la baronne, il s'aperçut à son attitude que celle-ci non seulement n'avait pas désarmé, mais qu'elle était d'une humeur encore plus épouvantable. « Ça va être gentil, » se dit-il en déployant sa serviette. Il ne se trompait pas. Elle commença par trouver exécrable un potage exquis que son mari savourait avec délices. Puis elle condamna avec une sévérité non moins implacable une timbale de homard à l'américaine dont le fumet à lui seul garantissait l'exquise saveur. Papillon esquissa une timide protestation. « Mon chou, fit-il, je t'assure que cette timbale est délicieuse. »« Veux-tu que je te coiffe avec ?» menaça la terrible Doxy. Hippolyte n'insista pas et se contenta de piquer le nez dans son assiette. Quant à Madame Papillon, elle se leva en déclarant « Je vais mettre la clé à la porte. »« À quoi bon ?» murmura le collectionneur, puisque tu pars demain. Alors, grinça Eudoxie, tu me renvoies. Non, mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais partir. J'ai voulu voir, ripostait la baronne, jusqu'où irait ta mufflerie. Maintenant, je suis fixé. Tu m'aimes plus et tu m'as jamais aimé. Et puisqu'il en est ainsi, je vais demander le divorce, et puisque nous sommes mariés sous le régime de la communauté, j'exigerai la vente de toutes nos collections. Oh, à ces mots, Papillon se redressa comme s'il eût été secoué par une décharge électrique. Vendre les collections ? S'écria-t-il en verdissant. Oh, ça jamais ! J'aime mieux qu'on m'arrache les yeux et qu'on me coupe le nez, la langue et les oreilles. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est de la folie, me priver de ces œuvres d'art, de ces meubles précieux, de ces toiles magnifiques, de ces tapisseries splendides, qui sont l'orgueil et la joie de ma vie, sans jamais. Nous verrons bien, mais c'est pas tout. Que vas-tu exiger de moi? Nous mettrons aussi ton titre de baron en adjudication. Mais cela ne se fait pas, voyons. Tu l'as acheté, tu peux bien le revendre. « C'est fou, c'est insensé !» hurlait le baron. Et déchaîné à son tour hors de lui, emporté par une de ses colères de mouton enragé, Papillon s'élança vers sa femme et la saisissant à la gorge, il fit l'écume aux lèvres. « Un mot de plus et je t'étrangle comme un poulet !» Alors, il se produisit un de ces phénomènes tels que Shakespeare en a introduit dans la mégère abrivoisée. Madame Papillon, sans chercher à se dégager, laissa retomber sa tête vers l'épaule de son tortionnaire, et d'une voix pâmée, elle fit « Mon loup, mon aimé, aie pitié de ta pauvre chère folle qui t'adore et serait heureuse de mourir de ta main. » Papillon, ahuri, desserra son étreinte, qui d'ailleurs ne faisait courir aucun danger à sa femme, qui tomba aussitôt dans ses bras en balbutiant « Oh, pardonne-moi, j'ai été stupide !» Et elle ajouta, en enveloppant d'un regard enamouré l'amateur de bibelots qui croyait rêver « Dieu, que tu es beau, que tu es en colère !» Eudoxie, oui, c'est toi qui avais raison. Demain, au lieu de nous embarquer pour le Japon, nous nous en irons, ainsi que tu me l'avais proposé, nous enfermer dans notre château de Corteil. Là, dans ces épaisses murailles, nous pourrons défier le fantôme et recommencer notre lune de miel. » Aussi touché par ce revirement inattendu qu'il avait été exaspéré par les menaces de sa femme, Papillon déposa sur le front brûlant de Doxy l'habituel et classique baiser, grâce auquel il avait déjà si souvent réussi à arrêter les discussions qui menaçaient de devenir parfois orageuses. Et Eudoxie, l'entraînant vers la table, lui dit « Viens t'asseoir près de moi, mon Hippolyte. Viens, nous boirons dans le même verre, nous mangerons dans la même assiette. » « La timbale va être froide, » fit observer le gourmet qu'était le collectionneur. « Nous la réchaufferons de notre tendresse, » minauda Madame Papillon, en rendant avec usure à son mari le baiser qui avait mis le point final à cette querelle plutôt mouvementée. Le lendemain, dès la première heure, le baron et la baronne Papillon partaient en auto pour leur château de Courteuil. Qu'allait-il y rencontrer ? Chapitre 7, où Simone Desroches croit triompher, mais... Tandis qu'à petite allure, la limousine des Papillons roulait vers Courteuil, le bossu et Maurice de Thouars, toujours dans son costume d'aviateur, se préparaient dans l'ancienne prison du château, muée en laboratoire, à transformer en lingots d'or le trésor des Valois. Après avoir ouvert le coffre, tandis que le comte Maurice rangeait sur la table les piles d'écus d'or frappées à l'effigie du roi Henri III, Luchner, à l'aide d'une pince de bijoutier, commençait à dessertir les diamants et pierres précieuses qui enrichissaient le diadème de Catherine de Médicis. Maurice de Thouars lui demandait « À combien évaluez-vous le montant du trésor ?» Sans hésiter, le secrétaire de Papillon répliquait « Oh, à 50 millions environ !» En effet, s'il représente une quantité d'or relativement peu considérable, il enferme des pierres précieuses et notamment plusieurs diamants, moins gros peut-être, mais beaucoup plus purs que le fameux régent. Dites-moi, ne serait-il pas très difficile de les écouler ? Détrompez-vous, affirmait le bossu. Toutes les précautions ont été prises et je me suis déjà entendu avec un diamantaire d'Amsterdam qui se charge de tout réaliser en 6 semaines. Tout en continuant son délicat travail, Luchner ajouta « Mademoiselle Desroches vous a-t-elle parlé des conditions dans lesquelles nous devons partager le trésor ?»« Non, non, c'est une question que je n'ai pas voulu aborder avec elle. »« Eh bien, voici, elle touche 50%, Mademoiselle Bergen 20, moi 20 et Jack Teddy... » Jack Teddy, oui, l'homme à la salopette, 10%. Oui, cela me semble très bien ainsi. En effet, déclarait le bossu, et avec un sourire teinté d'ironie, il fit « Ce qui m'étonne, je ne vous le cache pas, c'est de ne pas vous voir figurer dans la répartition. Voulez-vous que j'en touche deux mots à Mademoiselle Desroches ?»« Oh, c'est inutile !» puisque je vais l'épouser. Oh, toutes mes félicitations, s'écriait le secrétaire du baron Papillon. Vous n'êtes pas à plaindre. C'est vous qui êtes le plus favorisé, et je vous souhaite bien du bonheur à tous les deux. Je vous sais gré de vos voeux, mon cher Luchner, fit tout à coup une voix qui résonna sous la voûte de la prison. C'était Simone Desroches, qui, dans un élégant déshabillé du matin, que la veille elle avait apporté en avion avec quelques menus bagages, faisait son apparition dans la prison. Jamais peut-être elle n'avait été aussi belle. On eût dit l'archange du mal. S'approchant du bossu qui continuait sa besogne, elle scanda. « Oh, je vois que vous êtes très avancé !» Et s'emparant d'un des diamants que Luchner venait de dessertir, elle l'éleva entre ses doigts et le plaça bien dans la lumière que se met autour d'elle une puissante lampe électrique. « Quelle merveille » admira-t-elle. « Quel feu ! Oh, je n'ai jamais vu un diamant aussi splendide !» Il y en a de plus beau encore, scandait Monsieur de Thouars, et ses rubis, ses topazes, ses émeraudes. Simone plongea les mains dans ce véritable tas de pierreries que le comte Maurice avait amoncelé auprès des piles d'écus et les fit ruisseler en une féerique cascade. Quel dommage, fit-elle, que je ne puisse pas en garder quelques-unes. Mais ses instincts de bête de proie l'emportèrent aussitôt sur ses désirs de femme coquette. D'un ton âpre, elle martela. « Mieux vaut tout liquider, c'est plus prudent, plus sûr et plus profitable. » Et jetant un coup d'œil circulaire sur le trésor dispersé et étalé sur l'établi, elle fit « Luchner, j'estime que votre estimation n'est pas suffisante. » « Je commence à le croire aussi, » appuya le bossu. Et il grommela entre ses dents, « Pourvu que ce maudit chante-coq... »« Chante-coq !» s'exclama Simone. Puis elle reprit d'une voix non plus harmonieuse, mais sèche, implacable. « Je vous avais annoncé hier soir que Belphégor n'avait pas dit son dernier mot. » « Je me rappelle, en effet, ponctua Maurice de Thouars. Eh bien, Jacques Teddy vient de me téléphoner du bureau du poste de Mantes qu'il avait réussi à enlever la fille du détective et qu'il serait ici avec elle dans une demi-heure. « Ça, c'est le bouquet !» déclarait Fischner avec une visible satisfaction. Simone poursuivit. En admettant que Chantecoq découvre notre piste, quand il saura que sa fille est entre nos mains, il ne tardera pas à la prendre. Il se gardera bien de nous attaquer, et j'aurai le temps de filer en avion avec nos lingots, nos diamants, nos pierreries, et si besoin est avec la demoiselle. Oh, c'est tout simplement prodigieux, s'enthousiasmait Monsieur de Thouars. Le bossu, qui avait fini de dessertir le diadème et avait soigneusement enveloppé les diamants dans du papier de soie, s'en fut vers les piles d'écus qu'il déposa sur le plateau en y joignant le diadème et plusieurs autres bijoux d'un dessin magnifique. Puis, se dirigeant vers le fourneau à haute tension, il l'ouvrit et y introduisit le plateau. Après avoir refermé le four, il fit manœuvrer une petite roue de cuivre. Aussitôt, les aiguilles d'un manomètre se mirent à frétiller. Simone, qui avait suivi l'opération avec un visible intérêt, se tourna vers M. de Thouars et lui dit « Jacques Teddy va bientôt arriver, allez le guetter !» Le comte Maurice s'éloigna. Alors Mademoiselle Desroches, qui s'approchant du bossu, qui surveillait son tableau, lui dit « Combien de temps pensez-vous que cela va durer ?»« 3 heures, répondit le secrétaire de Papillon. « Il faut au moins 2 heures pour que le métal commence à entrer en fusion. » Alors, ironisa Belphégor, j'ai le temps de griller quelques cigarettes. Sur la route de Mantes à Dreux, une puissante auto fermée filait à une vitesse de 100 à l'heure. L'homme à la salopette, vêtu de son costume de chauffeur, sous lequel nous l'avons vu pénétrer chez Chantecoq, et auquel il avait ajouté une paire de lunettes noires, se tenait au volant. Après avoir dépassé plusieurs voitures, et notamment la limousine du baron et de la baronne Papillon, qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître, il arrivait bientôt en vue du château de Courteuil. À l'intérieur de la voiture, Colette, sans chapeau, un manteau jeté sur ses épaules, semblait plongée dans un profond sommeil. Sans doute le complice de Belphégor lui avait-il fait absorber un narcotique grâce auquel il allait pouvoir l'emporter sans encombre jusqu'à l'endroit où Simone Desroches lui avait donné l'ordre de la rejoindre. En effet, lorsque, après avoir franchi la grille du château, l'auto s'engagea dans la cour d'honneur, la jeune fille demeura immobile dans le fond de la voiture, comme si elle avait été anéantie par son lourd et invincible sommeil. L'homme à la salopette sauta à terre, et après avoir fait signe à M. de Thouars, qui s'avançait vers lui, de ne pas bouger et de garder le silence, il s'enfuit vers la portière, l'ouvrit et, prenant dans sa poche un flacon qu'il déboucha, il le fit respirer à la jeune fille. Presque aussitôt, Colette entr'ouvrit les paupières. Sa poitrine se dilata comme si elle avait hâte de respirer à plein poumon l'air pur et frais du matin. Et, s'appuyant sur la main que lui tendait Jack Teddy, elle mit pied à terre. Elle semblait harassée d'émotion et de fatigue. L'homme à la salopette invita cette fois M. de Thouars à le rejoindre. Et le comte Maurice s'inclina avec déférence devant l'otage de Belphégor, lui dit « Veuillez me suivre, mademoiselle, je vais vous conduire auprès de monsieur votre père. » Fort galamment, il offrit son bras à Colette, qui s'y appuya tout en murmurant « N'est-ce pas plus grave que l'on a bien voulu me le dire ?»« Non, non, mademoiselle, je puis même vous assurer que la vie de monsieur votre père n'est nullement en danger. » Ces paroles parurent réconforter la jeune fille. Sous le regard du portier qui était accouru et auquel Luchner avait dû, pour expliquer la présence au château de ses hôtes inconnus, raconter une de ces fables ingénieuses dont il avait le secret, Maurice de Thouars et Colette pénétrèrent dans le château, suivis par l'homme à la salopette. Après avoir gravi l'escalier d'honneur, ils pénétrèrent tous trois dans le très grand salon où se trouvait la porte qui donnait dans l'escalier dit des oubliettes. Maurice de Thouars l'ouvrit et invita Colette à en franchir le seuil. À la vue du couloir, de ses marches étroites, elle eut un instinctif mouvement de recul. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle. « Ben, je vous l'ai déjà dit, mademoiselle, près de votre père. »« Mais où se trouve-t-il donc ?»« Dans une aile du château, auquel l'escalier donne seul accès. » Le bel âtre ajouta. Les architectes des temps passés avaient parfois de ces caprices. » Colette n'insista pas. D'ailleurs, Jacques Teddy avait déjà refermé la porte et barré la route à la fille du détective au cas où celle-ci eût voulu esquisser un mouvement de retraite. « Je vous suis, monsieur, » décida la fiancée de Jacques. Et, descendant les degrés, ils arrivèrent jusqu'aux anciennes prisons. En apercevant à travers les grilles, Simone Desroches et le bossu, qui qui, debout devant le tableau d'électricité, les yeux fixés sur le manomètre, guettait les oscillations de l'aiguille. Colette s'arrêta, tout en manifestant une violente surprise. Maurice de Thouars, la prenant par la main, lui dit « Entrez donc, mademoiselle, je vous en prie. » Simone se retourna. À la vue de sa rivale qui venait de pénétrer dans la salle, elle eut un éclat de rire triomphant. De nouveau, la fiancée de Jacques esquissa un mouvement de retraite, mais elle se heurta à l'homme à la salopette qui s'encadrait dans la porte. D'une voix railleuse, Simone lançait « Ah, vous venez chercher votre père ?»« Oui, mademoiselle. » « Il n'est pas ici. » Et sur un ton de menace implacable, Mlle Desroches poursuivit « Et si jamais il y vient ?» Elle s'arrêta. « Le voici !» s'écriait Jacques Teddy en enlevant sa casquette, ses lunettes et sa fausse moustache. « Au chante-coq !» s'écria Simone, déjà le détective braquait sur elle un revolver. Tandis que Maurice de Thouars et le bossu, sidérés par tant d'audace, restaient figés sur place, le grand détective reprenait « Cette fois, Belphégor, je te tiens !» Maurice de Thouars crispa rageusement les poings, et tandis que sournoisement le bossu se rapprochait de la table, le grand limier disait à Simone « Vous avez voulu faire enlever ma fille par un de vos complices, mais je suis arrivé à temps pour l'en empêcher. Et ce gredin ainsi que la demoiselle de compagnie Elsa Bergen, je les ai remis moi-même entre les mains de la justice. Et maintenant, réglons nos comptes. » Livide, effaré, le dos appuyé sur la muraille, Simone fixait Chantecoq avec une étrange fixité. Doucement, le bossu avança la main pour saisir une paire de fortes tenailles qui traînaient sur l'établi. Et la brandissant brusquement, il allait la projeter à toute volée à la tête du policier. Mais celui-ci, qui avait l'œil à tout, ne lui en donna pas le temps. Un coup de feu retentit, le bossu laissa échapper son arme improvisée. La balle du détective venait de lui traverser le bras. Monsieur de Thouars voulut s'élancer entre Chantecoq et Simone. Mais Chantecoq le saisit au collet en disant « Ah, c'est de casse comme ça. Ne me privez pas du plaisir de vous livrer intact à mon ami Ferval. » Il n'avait pas prononcé ces paroles que Gautret, accompagné de Pandore et de Vidocq, faisait irruption dans la pièce. Un commissaire de police et quatre agents de la brigade mobile les accompagnaient. « Monsieur le commissaire, » dit Chantecoq en lui désignant Simone et les deux acolytes, « voici Belphégor et ses complices. Je les remets entre vos mains. » Deux agents se jetèrent sur le bossu et M. de Thouars qui n'opposèrent aucune résistance. Le commissaire s'approcha de Simone et il allait s'emparer d'elle lorsque la muraille contre laquelle elle s'appuyait s'entr'ouvrit, démasquant un passage secret dont la veille, en cas d'alerte, le secrétaire du baron Papillon lui avait révélé l'existence. Et tout en disparaissant par l'ouverture, elle s'écria « Tu me tiens pas encore !» Le roi des détectives se précipita, mais il se heurta à la muraille qui s'était refermée. Chantecoq, tout en menaçant le bossu de son arme, lui dit « Livre-moi tout de suite le secret de cette porte ou je te brûle la cervelle. » Blücher n'hésita pas. S'approchant de la muraille, il appuya sur un ressort dissimulé entre deux pierres. La muraille se déplaça aussitôt. Lâchez les chiens !» ordonna le père de Colette à Gautret, qui détacha les deux Danois qu'il tenait en laisse. Aussitôt, Pandore et Vidocq s'élancèrent à travers la baie et gravirent de toute la vitesse de leurs quatre pattes l'escalier dérobé par lequel s'était enfui Belphégor et qui aboutissait à la plateforme de l'une des tours du château. Ils arrivèrent au moment où Simone allait se glisser sur un toit voisin d'où par une de ses fenêtres à tabatière il lui eût été possible de gagner par les combles une cachette que le prévoyant bossu en cas d'alerte s'était aménagé. Mais Pandore et Vidocq ne lui en laissèrent pas le loisir. Se jetant sur elle, ils l'empoignèrent chacun par un bras, et comme elle cherchait à se dégager, elle sentit les crocs des deux chiens s'enfoncer dans sa chair. Alors, se sentant perdue, et comprenant qu'elle n'avait plus qu'à se rendre ou à mourir, malgré la douleur que lui causait la double morsure qui s'accentuait à chacun de ses mouvements, elle chercha à gagner le créneau afin de se précipiter dans le vide. Pandore et Vidocq resserrèrent l'étreinte de leurs mâchoires et elle eut l'impression de lire la mort dans leurs yeux. Un cri de rage impuissante lui échappa et elle s'abattit sur les dalles. Une haleine chaude passa sur son visage, une gueule béante s'approcha de sa gorge. C'était Pandore qui s'apprêtait à l'étrangler. Mais un coup de sifflet retentit. Les deux bêtes lâchèrent aussitôt leur proie pour retourner docilement vers Gautret, qui venait de surgir avec Chantecoq sur la plateforme. Et le détective, empoignant dans les bras la jeune femme à bout évanouie, s'écria « Maintenant, Belphégor, je te tiens tout à fait. » Chapitre 8. L'expiation. Pendant que ces événements se déroulaient à l'intérieur du château, la limousine des papillons s'arrêtait dans la cour. Le portier se précipitait vers eux, et avant que ses maîtres eussent mis pied à terre, il s'écriait affolé. « Oh, monsieur le baron, madame la baronne, il se passe ici des choses extraordinaires. »« Quoi donc ?» interrogea le collectionneur en descendant de voiture. Et le concierge expliquait. « La nuit dernière, monsieur Luchner a amené au château deux personnes, un homme et une femme que je ne connais pas. Je me demande même par où il les a fait entrer, car je puis jurer à monsieur le baron qui n'ont pas franchi la grille que j'avais fermée moi-même à double tour. Ce matin, seulement de très bonne heure, M. Luchner m'a fait appeler et m'a dit « Hier soir, très tard, je suis arrivé avec un ingénieur qui est venu pour s'occuper du mécanisme des oubliettes qui ne veut pas toujours fonctionner. Je n'ai pas voulu le réveiller, je l'ai fait entrer avec sa femme qui l'accompagne par la petite porte de Diane. » Sa sœur doit venir le rejoindre ce matin, car ces dames désirent visiter le château. « Cette histoire me semble louche, » souligna Eudoxie qui avait rejoint son mari. « Bon, tu t'inquiètes toujours à tort, » m'originait Papillon. « Luchner est mon homme de confiance, et il est incapable d'une imprudence et encore moins d'une indélicatesse. »«
Je n'ai pas fini, monsieur le baron, » reprenait le portier.
« Eh bien, parlez.
Il y a environ une demi-heure, la sœur de l'ingénieur est arrivée en auto. Elle avait l'air bizarre et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de chapeau sur la tête. Mais ce n'est pas tout. L'ingénieur qui l'attendait depuis un moment, un monsieur très bien, très distingué, s'est approché d'elle, l'a salué avec respect et lui a dit... « Veuillez me suivre, mademoiselle, je vais vous conduire auprès de monsieur votre père. »«
En effet, » opinait l'amateur de bibelots, « cela me paraît étrange. »«
Ce n'est pas encore tout, » appuyait le concierge. Un quart d'heure après, une nouvelle auto, découverte celle-là, arrivait dans la cour. Elle contenait 6 hommes et 2 chiens, 2 Danois qui n'avaient pas l'air commodes. Un des hommes m'a dit « Je suis le commissaire de police et je viens perquisitionner. »«
Perquisitionner ?» s'exclamait le baron.
« Mais tu vas voir !» s'écriait sa femme, « qu'ils vont te prendre pour Belphégor !» Alors, poursuit le portier, ils sont entrés dans la maison.
« Avec les chiens ?»«
Oui, avec les chiens. »«
Mais ils vont tous saccager !»«
Non, jusqu'ici, il n'y a pas de casse. » Ah, j'oubliais en effet de dire à monsieur le baron et à madame la baronne que le commissaire m'a demandé de les guider jusqu'à l'entrée des oubliettes. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai ouvert la porte qui conduit aux anciennes prisons. Alors, ils se sont tous engouffrés là-dedans.
Les chiens aussi?
Les chiens aussi, oui. Sûr qu'ils doivent se cuire là-dedans un drôle de fricot. Car à l'instant même où la voiture de monsieur le baron et madame la baronne pénétraient dans la cour, j'ai aperçu là-haut, sur la tour de Diane de Poitiers, une femme que les 2 chiens voulaient boulotter et qui criait au vinaigre.
« Oh, Hippolyte !» s'exclamait madame Papillon. « Allons-nous-en !»«
Jamais de la vie !» protestait le collectionneur. Mon instinct me le dit, ce sont des malfaiteurs qui ont voulu nous cambrioler. Mais puisque la police est là...
La police ! S'exclama madame Papillon.
Mais depuis Belphégor, j'en ai presque aussi peur que de ce qu'elle est chargée d'arrêter. Tout à coup, le commissaire surgit dans l'encadrement de l'une des baies du premier étage. Et d'une voix sonore, il lança au portier... Téléphonez à Mantes pour qu'on nous amène un fourgon fermé. Nous tenons toute la bande.
Alors je monte, décida Eudoxie, en retrouvant subitement tout son courage.
Le couple gravit l'escalier d'honneur. Des rumeurs s'échappaient du grand salon. Ils y pénétrèrent et à peine en avaient-ils franchi le seuil qu'ils s'arrêtaient stupéfaits. Tandis que les 4 agents de la brigade mobile entouraient Maurice de Thouars et le Bossu, Chantecoq et Gautret tenaient en respect Simone Desroches. Celle-ci, à moitié affalée sur une chaise, regardait qu'avec une expression de haine indicible Colette, qui cependant avait eu le tact de s'effacer dans un coin obscur du vaste salon. Le grand détective s'avança vers le collectionneur et sa femme. « Madame, fit-il en s'inclinant devant madame Papillon, je vous avais promis de vous livrer de Belphégor. » Et étendant le bras vers Simone, il ajouta « Le voici !» Hippolyte croyant rêver écarquilla les yeux. Il renonçait d'ailleurs à comprendre. Quant à Eudoxie, elle se figura d'abord qu'elle était l'objet d'une mystification. Dressée sur ses ergots, elle s'apprêtait à injurier copieusement ce policier qui se permettait de se moquer d'elle à ce point, lorsque Simone s'écria, sur un ton de cynisme effrayant, « Eh bien oui, c'est moi, et après ?» C'en était trop pour la pauvre chère folle. Après avoir poussé un cri d'horreur, elle s'évanouit dans les bras de son mari, qui s'empressa de l'emporter dans une pièce voisine. Simone, qui venait de livrer à Chantecoq tout son secret, reprit d'une voix mordante. « Vous devez être content, puisque vous êtes le plus fort. » Avec une expression de réelle tristesse, le roi des détectives demandait « Mais comment avez-vous pu devenir une aussi grande criminelle ?» La coupable tressaillit et ferma les yeux, comme si elle voulait échapper aux visions que ces quelques mots lui inspiraient. Puis, tout en frémissant, elle articula avec peine
les drogues, et puis la peur de la misère. Tous en silence contemplaient Simone qui semblait se ressaisir. Elle ouvrit les yeux qui brillaient d'un singulier éclat. Et portant d'un geste rapide, furtif, sa main à son corsage, elle en tira un petit objet qu'elle porta à ses lèvres. Chantecoq voulut s'élancer, il était trop tard. Foudroyée, Mademoiselle Desroches tombait la tête en avant sur le parquet. Le détective et le commissaire se penchèrent vers elle. Chantecoq ouvrit une de ses mains qui se crispait en un spasme suprême. Elle serrait une ampoule de verre vide et à demi écrasée. Poison foudroyant, elle s'est fait justice. Maurice de Thouars eut un violent sursaut de douleur. Le bossu courba la tête et tous se découvrirent, non devant la morte, mais devant la mort. Quelques instants après, dans la salle de TSF du Petit Parisien, un sans-filiste, l'oreille collée à un récepteur, écoutait une communication que par un tube acoustique il transmettait à un rédacteur. Celui-ci, assis à la table et entouré de plusieurs de ses collègues, le prenait en sténographie tout en répétant à voix haute « Chantecoq, le roi des détectives, vient d'arrêter dans un château des environs de Mantes le fantôme du Louvre qui n'est autre qu'une femme. » Tout à coup, une voix vibrait. « Vous voyez bien que ce n'était pas moi !» C'était Jacques Bellegarde qui venait d'être remis en liberté et s'empressait de regagner son journal. Tous ses camarades se précipitèrent vers lui, le félicitant, lui serrant les mains. L'un d'eux s'écria « Oh, quel beau papier tu vas nous donner !»« J'ai vécu en effet un roman extraordinaire !» déclarait le reporter. « Sans doute, reprenait l'un des secrétaires de la rédaction, comme tout roman qui se respecte, il se termine par un mariage. »« Peut-être, fit Jacques, avec un charmant sourire. » Épilogue. Quelques jours après, au restaurant de la Tour Eiffel, Chantecoq célébrait dans un déjeuner intime les fiançailles de sa fille avec Jacques Bellegarde. Ferval et Ménardier y assistaient tous les deux. Nous devons dire que, beaux joueurs l'un et l'autre, ils faisaient une excellente figure. « Eh bien, mon cher collègue, demandait le roi des détectives à l'inspecteur, vous ne m'en voulez pas trop ?» « Moi, non, pas du tout, non, ripostait Ribardier avec la plus grande parfaite sincérité. Vous voyez que les vieilles méthodes ont parfois du bon et que se camoufler n'est pas toujours inutile. Vous êtes notre maître à tous. » Des applaudissements éclatèrent et Ferval, se levant, sa coupe de champagne à la main, s'écria « Je bois au bonheur des deux futurs époux et à Chantecoq, le meilleur des amis, le plus brave des hommes. » Les coupes s'entrechoquèrent. Ménardier, qui se trouvait auprès de Bellegarde, lui demanda « Vous ne m'en voulez pas trop ?» Le reporter, finement, répondit « C'est vous, au contraire, qui devriez m'en vouloir. » Ménardier, stupéfait. « Pourquoi ?»« Mais, répliqua Bellegarde, parce que je suis innocent. » L'inspecteur éclata de rire, et une poignée de main cordiale mit fin au malentendu qui se terminait d'ailleurs d'une aussi heureuse et cordiale façon.
Le repas terminé, les invités de Chantecoq quittèrent le restaurant. Jacques et Colette s'enfuirent vers la balustrade et s'y appuyèrent, admirant le panorama de Paris. Tout à coup, il leur sembla qu'au lointain, au-dessus du palais du Louvre, s'élevait une sorte de fantôme noir qui, après avoir un moment plané dans le ciel, s'évapora dans les airs. Instinctivement, Colette rapprocha sa tête de son fiancé, qui déposa ses lèvres sur le front si pur qui s'offrait à son baiser. Et Chantecoq, qui les observait avec un bon sourire, murmura « Oh, maintenant, j'en suis sûr, Belphégor ne ressuscitera jamais. » Fin.